Le premier sujet s'impose ce matin, bien sûr. On est rendu à 9 engins, colis piégés qui ont été envoyés par une ou des personnes. C'est la signature d'une organisation ou d'un individu solo terroriste. Et évidemment, ça donne lieu à tout un débat. Je ne sais pas si vous suivez un peu sur les médias sociaux le niveau des échanges. Là.
Oui.
On est dans les attaques à répétition. Les démocrates ont planté des bombes pour évidemment nuire à Trump à l'élection de mi-mandat. D'autres disent que le discours du président fait en sorte qu'on se retrouve dans une nation qui est de plus en plus polarisée et en confrontation.
La division dans le discours politique aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas ici. Ici, les politiciens au Québec, au Canada, quand ils sont pas dans le même parti, ils sont capables de se parler, capables d'avoir des rapports empreints de civilité. Aux États-Unis, c'est très différent. Et tu le vois dans la réaction, justement, à ces événements-là qui sont horribles, qui sont répréhensibles. Mais écoute, même le vice-président Pence n'a pas été capable de prononcer le nom de George Soros, qui est une sorte d'épouvantail de la droite. C'est un milliardaire progressiste, libéral, et selon plein de théories du complot à droite, tout est la faute de Soros. Le vice-président Mike Pence a nommé Hillary Clinton, Bill Clinton, Obama, je pense. Pas un mot sur Soros, on le nomme pas. Ça donne une idée du climat. Et moi, je veux juste dire, je le répète tout le temps, oui, Trump est épouvantable, mais il est un symptôme d'une vie politique qui est toxique depuis 50 ans. Il n'est pas la cause.
En fait, ce que ça illustre, là, on parle d'une vague, puis ça commence à être difficile de croire qu'il s'agit juste d'un seul individu. Ce que ça illustre, la question que plein de gens se posent, c'est est-ce qu'on est vraiment dans une division? Parce que, tu sais, il y avait des questions de ça. Quand Trump a été élu, là, il y avait des scénarios catastrophistes qui disaient on s'en va vers une guerre civile. Mais chose certaine, il y a un clivage. Puis moi, je cherchais les chiffres. Et les chiffres, ils sont beaucoup dans les sondages sur quelle est la polarisation de l'opinion américaine. Et effectivement, dans l'opinion américaine, selon Gallup, là, il y a presque toujours 40-45% des Américains qui sont entièrement d'accord avec la politique de Trump, c'est-à-dire celle de créer des emplois et de faire de l'économie américaine un moteur qui fonctionne bien. Et dans les faits, les chiffres confirment que ça se passe. Est-ce que c'est à cause de Trump? Probablement pas vraiment, mais en partie aussi. Ou en tout cas, il s'accapare de ce discours-là. À l'inverse, il y a 50% des Américains qui sont diamétralement opposés à la politique américaine. Et là, on voit clairement qu'il y a deux courants qui sont, d'un côté, les gens qui ont souffert du sous-emploi, de la perte d'emploi, de la délocalisation, donc des gens dont le travail a été menacé, qui sont tombés en chômage, là, ils se remettent à travailler. Alors, ils aiment ce qu'ils sont en train de vivre. Et de l'autre côté, clairement, et c'est identifié au Parti républicain, ceux-là, et de l'autre côté, clairement, un establishment. On peut pas dire que l'establishment est sans reproche. On pense à Bill Clinton, on pense au président, on pense aux médias, même les médias. Il y a rien. Mais eux sont foncièrement opposés. Alors, ce clivage-là, il est en train de s'exprimer par l'utilisation, et là, c'est indéniable que Trump a une responsabilité énorme parce que son utilisation du langage, des colibets, des insultes, sa détérioration, mépris pour ses adversaires et sa façon violente, très violente, d'attaquer ceux qui s'opposent à lui font que tu viens de créer un climat potentiellement extrêmement dangereux. Puis là, c'est ça.
Mais ce climat-là, je le répète, là, existe depuis longtemps. Écoutez, n'oubliez pas une affaire, hein. Les États-Unis ont baigné dans une culture de violence politique depuis longtemps. Il y a eu une guerre civile dans ce pays-là qui a contribué à fonder ce pays-là. Il y a encore des gens aujourd'hui qui disent que les sudistes avaient peut-être pas si tard que ça. Ça te montre à quel point il y a des extrêmes dans ce discours-là. Puis je reviens aux années, tu sais, je revenais les années 60, là, Robert Kennedy a été assassiné. Martin Luther King a été assassiné. Il y a eu toute une vague de violence politique incarnée par un groupe qui s'appelait les Weathermen, qui faisait sauter des bombes aussi. Mais ça vient... Il y a une culture reliée à ça. Martin Luther King a été assassiné, oui, par un homme qui était probablement un loup solitaire, un fou, appelons ça comme on veut, mais qui baignaient dans une culture politique, dans un discours politique qui ressemble à ce qu'on voit aujourd'hui. La paranoïa anti-canadienne à l'époque, là, ça ressemblait à la paranoïa anti-gauche, anti-Clinton d'aujourd'hui. Ça vient de quelque part. Puis ça vient de où? Ça vient, moi je pense qu'il y a un terreau politique pour ce discours-là, mais ça vient aussi de toute une nébuleuse de médias qui existent depuis longtemps, qui ne sont pas nés avec l'Internet, qui fouettent des discours paranoïaques, des visions conspirationnistes de la vie. T'sais, on pense que Fox est extrémiste. Ça l'est un peu selon nos standards. Quand tu écoutes la radio, le talk radio aux États-Unis, mais là, t'entres dans une autre galaxie. Quand tu écoutes Alex Jones, qui n'est que sur Internet, mais qui a des millions de suiveurs, ça parle d'un monde qui n'existe pas. Ça parle, mais il y a des gens qui croient à ça. Il y a des gens qui croient que Obama est vraiment un islamiste radical. Il y a des gens qui croient que les démocrates sont des ennemis communistes, que la gauche aux États-Unis, c'est l'État islamique, que le féminisme, c'est du nazisme, que George Soros, je reviens à lui, contrôle tout. Ben là, à un moment donné, quand t'écoutes ça à longueur de journée, si t'as une faille dans la tête, ça se peut, puis on sait pas qui l'a fait, mais ça se peut que tu te mettes à envoyer des bombes tuyaux. C'est possible.
Mais tu sais, je regarde juste le cas de ce matin. C'est Robert De Niro, là, Joe Biden aussi, mais Robert De Niro qui a été ciblé. Ouais. Là, quand tu fouilles un peu, là, De Niro qui a été un critique agressif là, de Trump en disant « fuck you ». Mm-hmm. Et Trump lui a répondu, c'est le président des États-Unis qui répond sur Twitter que De Niro a un niveau d'intelligence faible parce qu'il a reçu tellement de coups sur la tête en incarnant des boxeurs au grand écran que ça explique pourquoi, dans le fond, il est insignifiant. Ouais. Fait que là, t'as une vedette qui dit « fuck » au président, puis t'as le président qui répond qu'il n'est pas intelligent. Mais là, tu sais, c'est un symptôme.
Mais
là.
Le président Trump s'abaisse à ce niveau-là, aime ça. Écoute, ça n'a pas commencé non plus quand il était président. Quand il n'était pas président, quand il se présentait, rappelez-vous, moi, c'est dans sa campagne à la présidence, il y a eu beaucoup de moments où j'ai les épaules m'ont tombé, la gueule m'est tombée. Mais à un moment donné, c'est quand il a dit... il y a des gens qui allaient dans ses rallyes politiques et qui se levaient puis qui protestaient contre lui. Et là, il encourageait ses supporters à battre ces gens-là. Et rappelez-vous la fois où il a dit « Hey, puis si vous êtes poursuivis, je vais payer vos frais juridiques. » OK, en termes de violence politique, moi, j'ai jamais vu un président américain de mon vivant s'abaisser aussi bas que ça. Mais c'est devenu la nouvelle normalité. Fait que je le dis, je le répète, Trump, c'est un symptôme. Mais mettons qu'il met beaucoup de fertilisants sur les symptômes.
Oui, bien là, il pratique ce qu'on appelait la wedge politique, là, la politique de la division. Puis les thèmes sont majeurs, là, la santé, l'immigration, les droits civils. Il attaque tout ça, il attaque les trans, il parle du mur. Donc, il entretient carrément. La question qui se pose actuellement, c'est, tu peux imaginer que n'importe qui pose cette... Et là, si tu lis ça à la campagne, aux élections qui s'en viennent, je peux comprendre que tu complotes, que tu imagine un complot, soit des démocrates, soit des républicains. Parce que tout d'un coup, c'est comme si tout le monde avait intérêt à ce que cette élection-là, qui risque d'être une des plus populaires aux États-Unis en termes de fréquentation, il risque d'avoir beaucoup d'électeurs, et l'enjeu devient majeur. Et là, qui a intérêt à ce que cet enjeu-là se soit alimenté par la violence, tu peux imaginer des motifs évidents pour les républicains, puis tu peux imaginer des motifs évidents pour les démocrates. Alors là, ça devient... C'est une pourriture du processus démocratique lui-même. Puis c'est ça que les gens craignaient, et moi, je pense que c'est ça qui est en train de se passer. C'est que les institutions reposaient sur quelque chose, une sorte de démocratie où tu peux t'exprimer librement. Là, ça semble être de plus en plus difficile, parce que tu risques d'avoir une bombe si tu dis le contraire des autres.
Qu'il y ait des fous qui sont, disons, stimulés par ce discours-là, c'est difficile de combattre ça. Je veux dire, la liberté d'expression aux États-Unis est quasiment totale. Tu peux avoir des médias qui disent n'importe quoi, n'importe comment. Bon, ça a créé quand même une démocratie forte. Mais moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est à quel point il y a une timidité à droite dans le rejet de ces idées-là. Je veux dire, t'as des républicains, des congressmen, là, qui sont très proches des mouvements racistes. Et ils sont pas mis au banc de leur société, au banc de leur famille politique. Il y a un républicain qui s'appelle Steve King, qui a un discours qui est celui des néo-nazis américains. Il est pas envoyé en exil de sa famille politique. Quand il y a des néo-nazis qui manifestent à Charlottesville, Ben, le président des États-Unis trouve le moyen de dire que, ben, écoute, dans ces manifs-là, il y a du bon monde puis du mauvais monde des deux bords. Ça, c'est nouveau. Ce rejet-là, qui était de l'époque, à l'époque de Reagan, là, il y avait probablement des politiques qui étaient défavorables aux Noirs, ça a été prouvé. Mais il y avait au moins un rejet de façade de ces idées-là. Mmh. Personne n'aurait accepté que le chef historique des néo-nazis américains se donne son appui à un candidat à la présidence. Ça, c'est nouveau. Fait que ce rejet-là, moi, je trouve qu'il n'est pas assez fort. Et en n'étant pas suffisamment fort, tu contribues à créer une culture politique qui risque de créer des fous.
Mais t'as raison, parce que dans le sens où oui. on a oublié quand même des pans de l'histoire. Moi, je suis allé voir le film de Spike Lee sur cet agent oui. noir qui fait de l'infiltration du Coca-Cola aux États-Unis. Bien là, il faut juste se rappeler le discours qui est dans ce film-là, le contexte de cette période historique où les gens se cachaient pas trop
Mais non.
D'afficher leurs convictions racistes puis pouvant aller jusqu'à la violence. Pendant un certain temps, là, c'était un peu plus gênant. Et l'effet Trump, c'est de dédouaner.
Exact.
Ouais. Là, que ça te permet de dire ce que tu veux et de tenir des propos. Tu sais, George Wallace était un raciste. Il s'est présenté à la présidence. Il s'est essayé. Bon. Alors, tu sais, le racisme comme tel a toujours été assez présent.
Ce que tu dis, c'est la façade. La façade vient de s'effondrer, puis c'est ça que Trump fait. Il a complètement changé le visage, parce qu'il a enlevé le masque de bonne entente que les démocrates ont souvent mis pour cacher la réalité. Ça, il faut bien le dire. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il... Et derrière, ce qu'on découvre, c'est une face un peu grimaçante, un peu hideuse.
On va s'arrêter là-dessus. Au retour, le premier mandat pour Christian Dubé, président du Conseil du Trésor, c'est d'enlever de l'argent aux médecins spécialistes.